Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h sur Europe 1.
Les exceptions que l'on envisageait, qui étaient l'éventuel non-port du masque dans certaines situations pédagogiques, nous avons préféré les abolir. Et donc aujourd'hui, nous disons port du masque par les adultes dans l'établissement.
Le masque obligatoire pour tous les adultes à l'école, mais aussi pour tous les élèves à partir de la 6e. Cette fois, la règle est fixée. Le ministre de l'Éducation annonce aussi une indemnité exceptionnelle pour les directrices et directeurs d'école. Les PME et TPE ne seront pas oubliés du plan de relance, promet Jean Castex. Le Premier ministre en a dévoilé les grandes lignes cet après-midi face au patronat. Explication à venir de Carole Ferry. Le chef du gouvernement, qui s'est bien gardé de commenter l'appel du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, veut rouvrir le débat sur le temps de travail et il dicte son calendrier, pas maintenant, mais avant 2022. Dans tout juste une heure, bars et restaurants des Bouches-du-Rhône devront baisser le rideau, une mesure qui pourrait être appliquée prochainement à Paris, alors que le nombre de cas de Covid détectés ces dernières 24 heures bat un nouveau record sur le plan national. Dans ce journal également, nous irons aux États-Unis où la ville de Kenosha s'embrase après une nouvelle affaire de violence policière, deux personnes tuées hier soir. Le foot et cette question, quel club est en mesure d'accueillir Lionel Messi et son salaire astronomique? Il se compte sur les doigts d'une main, nous dira Jean-François Pérez. La météo de demain, elle va se dégrader dans le nord-ouest. Nuages, pluie et vent au programme pour la Bretagne et la Normandie, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La bourse de Paris, eh bien, elle termine en hausse ce soir, plus 0,80% à 5048 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview éco à 22h20. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Philippe Wächter, chef économiste chez Natixis, pour évoquer la baisse en trompe-l'œil des chiffres du chômage. Et puis on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le doute est levé, la rentrée scolaire se fera bien masquer. Jean-Michel Blanquer a présenté cet après-midi les règles qu'il faudra respecter à l'école dès mardi prochain. Et cette fois, ça y est, c'est clair, Théo Manval, tout le monde portera un masque.
Eh oui, plus d'exception pour les écoles maternelles. C'est la première clarification du ministre. Tous les adultes devront bien porter le masque dans tous les établissements de la maternelle au lycée.
Les exceptions que l'on envisageait, qui étaient l'éventuel non-port du masque à l'école maternelle, l'éventuel non-port du masque dans certaines situations pédagogiques, notamment de forte distance entre le professeur et les élèves, nous avons préféré les abolir pour que ce soit à la fois simple, clair et net, et puis aussi pour assurer une sécurité maximale. Et donc aujourd'hui, nous disons de manière très simple, port du masque par les adultes dans l'établissement.
Pour éviter les contaminations sur plusieurs niveaux de classe et la fermeture de toute une école ou un collège, le brassage entre groupes d'élèves devrait être limité aux enfants du même âge. Les secondes devront croiser au maximum que les secondes, les CM1, les CM1. Alors ce n'est pas une obligation, mais une recommandation. Tout comme le fait de continuer à étaler le service des repas dans les cantines. Jean-Michel Blanquer demande en fait de poursuivre ce qui a été fait lors du déconfinement en s'adaptant établissement par établissement. Enfin, un élève qui arriverait sans masque un matin devant les grilles ne serait pas renvoyé chez lui. Chaque établissement aura un petit stock pour lui en fournir un. Le ministre précise bien que ces mesures pourront être durcies si la situation sanitaire l'exige.
Le ministre de l'Éducation qui a bien sûr beaucoup parlé des mesures sanitaires, mais qui a également annoncé une prime pour les directrices et directeurs d'école, Théo.
Oui, leurs difficultés, leur charge de travail avaient été mises en lumière il y a un an tout juste par le suicide d'une directrice en Seine-Saint-Denis. Jean-Michel Blanquer annonce 450 euros net pour tous les directeurs versés d'ici la fin de l'année. Et il confirme la revalorisation dès l'an prochain de tous les autres enseignants. Une enveloppe, dit-il, à ce stade de 400 millions d'euros.
Les précisions pour Europe 1 de Théo Manval. Le plan de relance économique du gouvernement sera finalement présenté jeudi de la semaine prochaine, le 3 septembre. Mais le Premier ministre en a dévoilé les grandes lignes cet après-midi au patron du MEDEF, réunis pour leur traditionnel rendez-vous estival. Carole Ferry, qu'a annoncé Jean Castex ?
Alors l'annonce principale, c'est le maintien du dispositif de chômage partiel dans les conditions actuelles, 15% du salaire à la charge des entreprises, jusqu'au 1er novembre au lieu du 1er octobre. Pour les secteurs les plus en difficulté, comme la culture, le tourisme ou encore le sport, ce dispositif est même maintenu jusqu'à la fin de l'année et sans reste à charge pour les entreprises. Concernant le port du masque systématique à partir du 1er septembre, le Premier ministre promet des solutions pragmatiques, un signe positif alors que le Haut Conseil pour la Santé publique doit se prononcer vendredi sur les dérogations demandées par les entreprises. Jean Castex a par ailleurs confirmé la baisse des impôts de production à hauteur de 10 milliards d'euros. Il a également insisté, un quart du plan de relance ira aux TPE et PME.
Carole, le Premier ministre a aussi lancé un appel à l'emploi des jeunes.
Oui, vous savez, il y a de fortes inquiétudes au sujet des jeunes qui vont chercher leur premier emploi dans les jours ou les semaines qui viennent. Il a rappelé que les aides aux entreprises pour faciliter l'embauche de ces jeunes étaient déjà en place. Il a lancé un véritable appel aux chefs d'entreprise pour jouer le jeu aux côtés de l'État.
Le sort que collectivement nous leur réserverons dans ces temps difficiles et troublés sera, n'en doutez pas, un indicateur de notre réussite collective. J'ai besoin de vous pour atteindre cet objectif. J'ai besoin de vous pour atteindre cet objectif vis-à-vis de nos jeunes.
Enfin, sur le télétravail, le Premier ministre a estimé qu'il fallait trouver le juste équilibre entre travail à la maison et présence au bureau. Dans un dialogue social à l'échelle de l'entreprise, pas de directive nationale donc.
Merci Carole Ferry. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, a par ailleurs profité de cette rencontre avec le chef du gouvernement pour remettre sur la table un sujet qui fâche, celui du temps de travail.
Je pense qu'il faudra rouvrir le débat, notamment quand on arrivera au moment des 35 heures. La retraite, lapsus révélateur ou non révélateur. Il faudra rouvrir le débat. Pourquoi ? Je le dis très simplement ici. La richesse d'un pays, c'est la quantité de travail par individu multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Tout le reste, c'est de l'idéologie. Donc ce débat sur le travail davantage, nous l'aurons dans le cadre du dialogue social sur les retraites. Pas maintenant, c'est certain. La priorité, c'est la relance. Mais pas non plus en 2022. Nos amis d'Europe du Nord, les fourmis généreuses qui ont contribué au plan européen, nous demanderons des comptes sur les réformes.
Le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui est arrivé sur scène cet après-midi sur l'air « I will survive » de Gloria Gaynor pour transmettre, dit-il, un message d'optimisme dans ce contexte très difficile. De l'optimisme, faut-il en avoir concernant les chiffres du chômage ? Ils sont en baisse pour le mois de juillet, selon Pôle emploi, moins 4% en catégorie A, c'est-à-dire les personnes n'ayant pas du tout travaillé. C'est le troisième mois de baisse consécutive. Moins 0,7% toutes catégories confondues, mais cela n'efface pas, loin de là, les hausses de mars et avril. Le nombre total de demandeurs d'emploi reste très élevé, plus de 6 millions. Très élevé également le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés ces dernières 24 heures, plus de 5400. C'est un record depuis le mois de mai. Voilà pourquoi, dans un peu moins d'une heure, Marseillaises et Marseillais vont devoir changer une nouvelle fois leurs habitudes à 23 heures précises. Le port du masque sera obligatoire dans toute la ville. Bars, restaurants et commerces alimentaires devront également baisser le rideau, et ce, dans tout le département des Bouches-du-Rhône. Mesure prise localement pour endiguer l'explosion des contaminations, 5 fois supérieure à la moyenne nationale. Et après, Marseille, pourquoi pas Paris. Le virus y est aussi très actif. La Belgique a d'ailleurs placé la capitale française sur sa liste des zones à risque. En tout cas, le gouvernement ne l'exclut pas. À l'issue des conseils des ministres ce matin, le porte-parole Gabriel Attal a laissé entendre qu'une fermeture des 23 heures des bars et restaurants parisiens pourrait être décidée dans les prochains jours. Une perspective qui inquiète fortement ce restaurateur du 15e arrondissement.
On espère que oui, on ne sera pas obligé de fermer à 23 heures. Forcément, ça sera un manque à gagner. Déjà qu'on a perdu pas mal d'argent en quasiment 2 mois et demi de fermeture, ça fait beaucoup quand même. On va faire quoi ? On va faire à manger jusqu'à 21h30 et puis c'est tout. Donc ça va faire 2 heures de service en moins. Et après, en général, il y a même des gens qui viennent boire des verres après. Et c'est pareil, on fait quoi ? On va être obligé de mettre du personnel au chômage ? C'est aberrant, c'est n'importe quoi. Il y a plein d'autres endroits qui pourront fermer dans ces cas-là. Les cinémas, les supermarchés même à la limite, hein, je sais pas. Parce qu'en plus, ici, tout est respecté. Les gens circulent avec un masque. Je vois pas où est le problème. On a 1 mètre entre chaque table. À partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi on devrait être pénalisé. Bon, on verra, on n'a pas le choix de toute façon. Bon, on croise les doigts, ouais, c'est clair.
Kenny, un restaurateur parisien au micro européen d'Hélène Terzian. En bref, la SNCF s'engage à poursuivre l'échange et le remboursement sans frais de tous les billets grandes lignes jusqu'au 1er novembre. Une opération de police était en cours en début de soirée à Grenoble, dans le quartier du Mistral, après la diffusion sur les réseaux sociaux de 2 vidéos montrant des dealers cagoulés et pour certains armés de fusils d'assaut. Et puis, une psychiatre d'une trentaine d'années entre la vie et la mort à Annecy, l'un de ses patients lui a tiré dessus avec une carabine alors qu'il se trouvait dans son cabinet. Il a pris la fuite avant d'être interpellé sur le parking d'un centre commercial.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h passées de 9 minutes sur Europe 1, merci d'écouter le journal de la nuit. Direction maintenant les États-Unis où pour la troisième soirée d'affilée, la ville de Kenosha dans le Wisconsin a été le théâtre de manifestations et cette fois il y a eu des morts. C'est dans cette ville que Jacob Blake a été grièvement blessé par un policier blanc. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les appels de sa famille n'ont pas suffi à calmer la colère.
Ah oui, ça n'a pas empêché l'escalade et pas seulement entre les manifestants et la police. Il y a aussi désormais des civils, certains lourdement armés qui patrouillent les rues de Kenosha pour, disent-ils, protéger les bâtiments. Sur une vidéo tournée la nuit dernière, on voit l'un de ces miliciens à terre, pris à partie, qui se relève en tirant avec son fusil sur des manifestants. On en voit deux qui s'écroulent. En tout, il y a donc eu deux morts et un blessé selon la police qui a ouvert une enquête, mais qui n'a pas donné plus de précisions, pas plus d'informations non plus sur l'incident de dimanche qui a tout déclenché, les tirs des policiers dans le dos de Jacob Blake. Que s'est-il passé avant cette scène? Pourquoi Jacob Blake a-t-il ignoré les injonctions des agents? Pourquoi ont-ils tiré alors qu'il était visiblement désarmé? On en sait un peu plus en revanche sur l'état de santé de ce père de famille afro-américain. Sa moelle épinière a été sectionnée, ses reins et son foie abîmés. Il a dû subir une ablation partielle de l'intestin et il pourrait rester donc paralysé à vie.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. J'ajoute que la police de Kenosha annonce ce soir l'arrestation d'un adolescent soupçonné d'avoir abattu les deux personnes en marge des manifestations. Par ailleurs, Donald Trump promet l'envoi de renforts pour mettre fin, je cite, au pillage et à l'anarchie. Les États-Unis qui se préparent à l'arrivée imminente de l'ouragan Laura dans le golfe du Mexique, il s'est renforcé ces dernières heures, passant en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5. Une montée des eaux potentiellement catastrophique et des vents extrêmes sont à redouter au Texas et en Louisiane, alertent les autorités 15 ans jour pour jour après le passage de l'ouragan Katrina. Nous vous en parlions dès hier soir dans ce journal. Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. L'attaquant argentin, toujours sous contrat, voudrait partir libre de son club de toujours. Impensable pour la direction des Blaugrana. Est-ce qu'il laisse présager un feuilleton juridique? Et puis partir, oui, mais pour aller où? C'est la question qui taraude depuis hier soir le monde du foot. Jean-François Pérez, vous êtes le chef du service des sports d'Europe 1. En fait, il n'y a pas beaucoup de clubs susceptibles de l'accueillir, hein.
Oui, avant d'évoquer les rares prétendants crédibles, une lapalissade. Messi, 4 Ligues des Champions, 6 Ballons d'Or, 240 millions de fans sur les réseaux sociaux. Ça coûte terriblement cher. Plus de 100 millions d'euros par saison, rien qu'en salaire. C'est plus que Neymar et Mbappé réunis. C'est plus que le budget total de l'Olympique de Marseille. Voilà pour les comparaisons françaises, puisque sauf cataclysme, Messi ne jouera pas en Ligue 1. À Paris, on en rêve bien sûr, mais le PSG va perdre de l'argent cette année. Il est sous le contrôle étroit du fair play financier. Je vous en rappelle le principe, on ne dépense pas plus que ce que l'on gagne. Opération quasi impossible donc, malgré la richesse supposément infinie des propriétaires qataris. Alors, où va atterrir l'Argentin? Tout le monde l'envoie à Manchester City, le club de son ex-entraîneur chéri, Pep Guardiola. Les deux hommes auraient récemment évoqué les retrouvailles, mais City est lui aussi sous la menace du fair-play financier. Le club anglais, propriété d'Abu Dhabi, va devoir être très inventif pour rester dans les clous. On parle également, sans grand espoir, de l'autre club de Manchester, United, ou de l'Inter Milan, ou d'une destination exotique, comme les États-Unis. Mais la dernière hypothèse, le dernier coup de théâtre, verrait Messi rester dans son club de toujours. Une fois les dirigeants en place, limogés, les supporters du FC Barcelone sont furieux et en Espagne, ils pèsent beaucoup plus qu'en France.
Merci Jean-François Pérez. Il y avait une demi-finale 100% française ce soir en Ligue des Champions féminines, Lyon face au PSG. Le match s'est terminé il y a quelques minutes sur le score d'un but à zéro en faveur des Lyonnaises. Elles affronteront dimanche en finale les Allemandes de Wolfsburg. C'est une nouvelle qui va mettre du baume au cœur des supporters de l'OM. Le gardien international Steve Mandanda a prolongé aujourd'hui son contrat de 3 ans. Il est désormais lié au club olympien jusqu'en 2024. Il était attendu comme le Messie, non pas celui de Barcelone, non celui des salles de cinéma. Tenet, le dernier film de Christopher Nolan, un blockbuster à 200 millions de dollars qui pourrait bien redonner des couleurs aux salles obscures en grande difficulté depuis le confinement. Alors que vaut ce film? À mi-chemin entre science-fiction et espionnage, Mathieu Charrier était à la sortie de l'une des toutes premières séances. Il a tendu le micro Europe 1 aux spectateurs.
C'est du Nolan, c'est superbe. Ça attaque dur et ça finit pareil. J'irai le revoir une deuxième fois.
Un autre concept par rapport aux autres films de Christopher Nolan. Oui, il faut s'accrocher, bien suivre toute la notion scientifique un peu de l'histoire, mais très intéressant.
Un peu compliqué. Et alors là, avec les histoires d'inversion, ça complique beaucoup.
Je pense qu'il faut le voir plusieurs fois avant vraiment de comprendre l'histoire totalement. Mais sinon, c'est vraiment bien fichu, bien tramé.
Ceux qui adorent les films de Nolan, il faut qu'ils viennent. Franchement, ils ne seront pas déçus.
Des spectateurs cet après-midi à la sortie de la projection de Tenet au micro de Mathieu Charrier. Et puis, vous ne trouverez plus Dix petits nègres en librairie. Le roman policier d'Agatha Christie, l'un des livres les plus lus et vendus au monde, change de nom en France. pour ne pas blesser. C'est justifié l'arrière-petit-fils de la romancière. Le livre s'intitule désormais « Ils étaient 10 ». La France était l'un des derniers pays au monde à utiliser le mot « nègre » pour l'appellation du livre. Il n'en restait qu'un, c'est le titre américain depuis plusieurs décennies. On passe à la météo de demain.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Anissa Haddadi, le temps redevient sec demain.
Oui, c'est à cause d'une perturbation, Julien, qui arrive demain par l'ouest, vous le disiez. Alors d'abord sur la Bretagne et la Normandie, là le temps est pluvieux demain matin. Et puis sur toutes les régions situées au nord de la Loire, le ciel est encore très couvert en début de journée. Au sud de la Loire, là, aucun problème, le soleil est encore bien présent. C'est une journée d'été pour la moitié sud, avec tout de même sur la Gironde et les Landes, des grisailles en début de journée qui vont se disperser à la mi-journée. Alors dans l'après-midi, la perturbation qui était sur la Bretagne et la Normandie, le matin va avancer. Elle va toucher les Pays de la Loire, le Nord et la frontière belge avec des petites averses dans l'après-midi. Et puis sur le centre Val-de-Loire, sur la région parisienne et les Ardennes, demain, le ciel est très couvert dans l'après-midi. Le temps reste sec partout ailleurs. Il fait beau. Vendredi, la pluie va toucher presque tout le monde. Donc profitez du soleil si vous nous écoutez sur la moitié sud. Pour les températures, demain, il fait déjà plus frais le matin. 10 à 16 degrés en moyenne, jusqu'à 26 en bord de Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 22 degrés à Quimper et à Vannes, 24 à Nantes, 26 à Metz, Nancy et Strasbourg, 27 pour Paris, 28 à Clermont-Ferrand. Et encore, demain, plus de 30 degrés dans le sud, 31 à Mende, 32 à Lyon et 35 la maximale pour Nîmes.
Merci Anissa Haddadi. Prochain point météo à minuit.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Ce soir, Emmanuel Duteil reçoit Philippe Vechter, chef économiste chez Natixis, pour évoquer les chiffres du chômage. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Peers.
22h17 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine dans le vert avec un nouveau record historique pour le Nasdaq.
Oui, le Dow Jones a hésité. Il gagne finalement 0,3%, 28 332 points. Une hausse prudente avant le discours que doit prononcer demain le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell. Et puis, rien n'arrête le Nasdaq qui grimpe encore de 1,73% à 11 665 points. L'indice enchaîne les records depuis le début de la semaine. Il regroupe les géants de la tech qui sont au plus haut niveau. Apple gagne 1,4%. Amazon bondit de 2,8%. Le fabricant de voitures électriques Tesla grimpe même de 6,3%.
Ah oui.
Et puis Salesforce flambe de 26%. Le groupe fait partie des grands gagnants de la crise sanitaire. Ses derniers résultats sont très bons grâce à la forte demande pour ses logiciels avec le développement du télétravail. Et puis, il va aussi intégrer l'indice Dow Jones le 31 août. Le pétrole est stable ce soir et puis l'euro aussi à 1,1829.
La bourse de Paris a hésité aujourd'hui, mais s'offre finalement une belle hausse.
Oui, un gain de 0,8% pour le CAC 40 qui a accéléré en fin de séance et qui termine à 5048 points. La journée a tout de même été très calme avec très peu de volume d'échange. Les valeurs technologiques se démarquent, dopées par la hausse du secteur à Wall Street. Atos grimpe de 3,7%, plus 2,6% pour ST Microelectronics, plus 2,7% pour le spécialiste des services. Service de paiement Worldline.
Peu de baisse significative sur le CAC 40 ce soir.
Ouais, l'avionneur Airbus et Lanterne Rouge sur un repli de 1,8%. Et puis l'opérateur Orange reste sous les 10 euros en baisse de 1,4%. Ailleurs en Europe, c'est l'optimisme qui domine. Londres gagne 0,1%, plus 1% pour Francfort grâce au prolongement des aides économiques en Allemagne aujourd'hui, notamment le chômage partiel. Milan plus 0,5%, Madrid plus 0,2%, Amsterdam plus 1,1% et le CAC 40 monte de 0,8% à 5048 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de Boursier.com. On vous retrouve demain, même heure, même antenne. 22h et bientôt 20 minutes sur Europe 1. On passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Philippe Vechter, chef économiste chez Natixis.
Bonsoir Philippe Vechter.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste chez Natixis. On est en ligne ce soir avec vous sur Europe 1 pour parler du chiffre du chômage qui est tombé pour le mois
de juillet, c'est une baisse en France, nettement, si on regarde ce qu'on appelle la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, moins 4 points. Il est également en recul, si on prend cette fois toutes les catégories, un recul moins fort, mais un recul quand même de moins 0,7. On est d'accord, Philippe Wächter, c'est une baisse en trompe-l'œil.
Depuis le mois de mai, on assiste à un rééquilibrage, c'est-à-dire que les gens retrouvent progressivement des petits boulots, et donc ces catégories de gens qui sont à la recherche d'un emploi mais qui travaillent un petit peu se regarnissent. En revanche, les gens qui sont sans emploi et qui n'en cherchent pas et qui ne travaillent pas, voient leur nombre diminuer. On a un jeu assez habituel. Ces éléments traduisent le fait que l'économie française, après le confinement, repart à la hausse et qu'on retrouve une dynamique des petits boulots qui fait que les gens se re-socialisent via le marché du travail.
Ça, c'est un point extrêmement important. C'est quand même, d'une certaine manière, dans ces chiffres, on voit une forme de reprise économique.
Absolument. Alors, il y a deux éléments. Il y a cet élément sur les petits boulots, et ça, c'est pour les raisons que j'évoquais, de resocialisation des personnes au chômage, c'est très important. Mais dans le même temps, on voit que si on additionne toutes ces personnes à la recherche d'un emploi, on a quand même des chiffres qui sont très élevés, même si celui du mois de juillet baisse un tout petit peu par rapport à celui du mois de juin, par rapport à ce qu'on observait à la fin de l'année 2019, on est sur des niveaux qui sont très élevés.
On reste encore dans une situation extrêmement compliquée sur le marché de l'emploi.
Oui, ça reste très, très compliqué sur le marché de l'emploi parce que le niveau d'activité en France est toujours inférieur, largement inférieur à ce qu'il était avant le début de la crise sanitaire, ce qui fait que l'emploi associé à cette activité est lui aussi un petit peu plus faible. Et on retrouve ces éléments dans les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui par le ministère du Travail. Alors, mais on constate à l'intérieur que la situation bouge un petit peu et c'est ça qui est intéressant.
On va regarder maintenant ce qui va se passer dans les mois à venir. Le gouvernement lui-même dit qu'il devrait y avoir 800 000 à 1 million de postes détruits d'ici à la fin de l'année à cause de la Covid-19. Déjà, Philippe Wächter, c'est à peu près vos estimations aussi ?
Les chiffres qu'on a tous un peu en tête, la Banque de France ou l'INSEE ont des chiffres assez similaires. On a eu un deuxième trimestre où les destructions d'emplois ont été assez réduites pour des raisons un peu techniques, parce que tout le monde est passé en chômage partiel, ou une grande partie des personnes qui étaient fragilisées sont passées en chômage partiel. Ces éléments-là vont ces mesures vont s'estomper progressivement. Alors, le gouvernement a reporté la fin de ces mesures de chômage partiel du 1er octobre au 1er novembre. Donc, on va encore avoir un soutien fort de la part du gouvernement pour ces mesures de chômage partiel.
Pour être très clair, si le gouvernement prend une telle décision, elle a été annoncée aujourd'hui par le Premier ministre à l'occasion de ce qu'on appelle les rencontres des entrepreneurs français, pour faire simple, l'université d'été du MEDEF, c'est parce qu'ils ont peur d'enlever la perfusion, parce qu'ils savent très bien que dans les mois à venir, les plans sociaux annoncés vont se concrétiser et que d'autres vont sûrement arriver.
Absolument, absolument. Et on voit déjà des inquiétudes sur des entreprises qui sont en difficulté et qui sont à l'aube de faire des plans sociaux. Donc, on voit bien que l'enjeu maintenant pour toute la politique économique va être de gérer et d'améliorer les perspectives sur le marché du travail, parce que c'est ce segment de l'économie qui va être le plus fragile au cours des prochains mois, et c'est celui-là qui va créer l'incertitude ou pas du côté des salariés, du côté des consommateurs. Et donc, le plan de relance qui doit être annoncé par Jean Castex le 3 septembre doit se focaliser sur ce segment, sur le marché du travail, pour rassurer l'ensemble des salariés français et éviter que la situation actuelle ne génère davantage d'incertitudes et un comportement beaucoup plus prudent.
Oui, parce qu'on sait de façon là aussi très concrète que la croissance, notre consommation, dépend de la situation de l'emploi. C'est-à-dire que si vraiment il y a une envolée du chômage, on va tous avoir peur potentiellement de perdre notre emploi. Et on va donc, pour ceux qui ont la chance de le garder, on va économiser. Et ceux qui malheureusement vont le perdre vont bien évidemment pas consommer. Donc ça pourrait être dramatique pour la reprise.
Oui, c'est un des enjeux très, très forts des prochaines semaines, des prochains mois. Et c'est pour ça qu'on va être extrêmement attentif aux annonces qui seront faites par Jean Castex. Il y a un autre élément associé à cela pour rassurer, et le marché du travail va jouer un rôle majeur. Depuis le confinement, les Français ont épargné 100 milliards d'euros en plus qu'il faut remettre dans le circuit. Et si effectivement les Français sont rassurés sur ce qui pourrait se passer sur le marché du travail, eh bien ils pourront remettre progressivement ces 100 milliards dans le circuit et alimenter la croissance française. C'est tout l'enjeu des annonces qui seront faites la semaine prochaine par le Premier ministre.
Eh bien, annonce que l'on suivra bien évidemment sur Europe 1. Un grand merci Philippe Wächter, chef économiste chez Natixis, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver bien évidemment sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h27, et voici donc ce que vous pourrez lire à la une de vos journaux demain matin. Le défi des masques en entreprise, titre La Croix. Face au regain de l'épidémie, les entreprises sont bien obligées de s'adapter, mais elles demandent au gouvernement de faire preuve de souplesse. Jean Castex dévoilera demain les protocoles à appliquer. Mais c'est surtout l'édito de La Croix qui interpelle. Il revient sur la polémique autour de la gratuité des masques à l'école. Une véritable leçon sur les travers français, écrit Guillaume Goubert. D'un côté, on attend tout de l'État, et de l'autre, on exècre à payer nos impôts. Oui, le gouvernement a raison de refuser cette gratuité. Les ressources de l'État doivent être réservées à des objectifs prioritaires, comme le soutien scolaire pour les enfants en difficulté, mais pas à payer des masques à des familles qui n'en ont pas besoin, comme l'a déclaré Jean Castex. Autre édito à lire demain, celui de l'Alsace. Isabelle Bollène revient sur l'appel du patron du MEDEF qui veut rouvrir le débat sur le temps de travail. On en a parlé dans le journal. Revenir sur les 35 heures, une bonne idée, vraiment, s'interroge la journaliste alsacienne qui rappelle qu'en Allemagne, ce pays que l'on qualifie souvent de frugal, la crise du Covid-19 a réveillé le débat sur la semaine de 4 jours. Du côté de la sage Autriche, le parti social-démocrate propose une réduction du temps de travail de 20% moyennant une perte salariale de 5%. Et la raison est simple. Face à la montée dramatique du chômage qui se profile, les gouvernements sont à la recherche de solutions pour limiter la casse sociale. L'équilibre à trouver, l'équation n'est pas simple à résoudre, mais en attendant qu'on y arrive, écrit Isabelle Bollène, on ne peut que s'amuser de voir le débat sur le temps de travail refaire surface en France et en Allemagne simultanément, mais dans des directions complètement opposées. Le Figaro Écho revient pour sa part sur les très mauvaises moissons pour les agriculteurs. La récolte française de blé est historiquement basse en raison de la sécheresse et d'une météo défavorable. Les cours du blé pourrait s'envoler. On termine avec les échos. Commerce menace sur les grandes surfaces, titre en une le quotidien économique. Le gouvernement a en effet annoncé un moratoire sur la création de surfaces commerciales dans le but de lutter contre l'artificialisation des sols. Moratoire qui pourrait se heurter au droit européen. Voilà pourquoi le Premier ministre a envoyé une circulaire à tous les préfets pour les enjoindre d'utiliser toutes les voies de recours afin de barrer la route aux projets qui bétonneraient des sols naturels ou agricoles. Voilà. Donc, en partie, les unes des quotidiens que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très très bien, et vous ?
Écoutez, parfaitement bien. Il est 22h30, prêt, au poste.
Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir de la Libre Antenne ? Vous avez déjà des thèmes en particulier ?
Non, nous n'avons pas de thème. Nous attendons les appels au 39-21. Nous allons commencer avec Josiane, qui est déjà en ligne et qui nous attend. Et puis on aura ensuite Daniel, que nous avons eu hier soir. Et puis, comme son nom l'indique, cette antenne est libre. Donc nous attendons désormais vos appels au 39-21, chers amis.
Eh bien, je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Julien.